écoutez RFI, 4 heures à Paris et Kinshasa, 3 heures temps universel, 5 heures à Goma.
Paul Lancin-Spinelli.
Une riposte vigoureuse est en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, région victime d'une aggravation sécuritaire sans précédent. Ce sont les mots de Félix Tshisekedi ce mercredi soir. Le président congolais s'est adressé à la nation alors que le M23 soutenu par le Rwanda contrôle la quasi-totalité de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, où les rues se réaniment peu à peu. Un nouveau président officiellement désigné en Syrie, Ahmed Al-Shara, l'homme qui a mené la rébellion contre Bachar Al-Assad en décembre dernier, est chargé de former un conseil législatif intérimaire. Des élections générales planifiées autour du 15 novembre prochain en Haïti. L'UNRWA a prié de quitter Jérusalem ce jeudi. Les travailleurs de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens travaillant à Jérusalem ex-est, annexée par Israël, sont aussi concernés. Et puis 4 sur 4 pour les clubs français en Ligue des champions de football. Toutes les équipes françaises poursuivent leur route dans cette compétition. Le silence des armes de retour à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les tirs ont cessé ce mercredi après-midi dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Entré dans la ville dimanche, le groupe M23, soutenu par l'armée rwandaise, a pris position dans la plupart des quartiers de la ville. Et après 3 jours de combat et une période encore plus longue sans eau ni électricité, terrés chez eux, les habitants sont timidement ressortis dans les rues ce mercredi. Des gomatraciens qui vivent toujours dans la peur. Écoutez.
Je suis allé voir ma mère à l'hôpital Heal Africa. Elle a été blessée par balle lors des combats d'avant-hier. Je vis à Goma et je ne veux pas revivre les combats que nous avons connus lundi.
Je sors pour la première fois aujourd'hui. Nous souffrons beaucoup, nous avons faim, nous manquons de nourriture. Pour avoir de l'eau, il faut puiser dans le lac, sans pouvoir traiter l'eau.
La situation n'était pas bonne. Je viens de sortir et je vois que la circulation reprend petit à petit. Je n'ai pas peur, je demande aux autorités de nous aider pour avoir Internet, de l'électricité et de l'eau.
Je continue d'avoir peur, car les cadavres que nous voyons dans la ville font peur.
Et ce mercredi soir, le président congolais s'est adressé à la nation dénonçant une attaque contre la République. Félix Tshisekedi a assuré qu'une riposte était en cours, qu'il avait demandé au nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu d'intensifier les opérations militaires. La crainte désormais des autorités congolaises, c'est une nouvelle offensive du M23 vers le sud Kivu. Le gouverneur de cette province a renforcé ce mercredi la sécurité de la capitale provinciale Bukavu et interdit toute navigation sur le lac Kivu. Des tirs de joie entendus à Damas en Syrie après la nomination du nouveau président de la transition, Ahmed Al-Shara, l'homme fort du pays depuis la chute de l'ancien régime le 8 décembre dernier, a été désigné ce mercredi par les nouvelles autorités syriennes. Il sera chargé de former un conseil législatif intérimaire. Les nouvelles autorités qui ont aussi annoncé la dissolution de l'ancien parlement et du parti Baas qui a gouverné le pays pendant 60 ans. La constitution en vigueur depuis 2012 est également gelée. Les Haïtiens qui ont eux aussi enregistré une nouvelle étape dans le processus de transition. Des élections générales devraient se tenir autour du 15 novembre prochain, annonce ce mercredi de Leslie Voltaire, le président du conseil de transition haïtien. Il sera d'ailleurs l'invité d'RFI ce jeudi matin au micro d'Arnaud Pontus à 6h20, temps universel. Ce serait le tout premier scrutin organisé depuis 2016 dans un pays ruiné par les bandes armées. La réserve fédérale américaine engage le bras de fer contre Donald Trump. La Fed a décidé ce mercredi de ne pas toucher à ses taux d'intérêt pour sa première réunion de l'année, qui était aussi la première depuis l'investiture de Donald Trump. Le patron de la Fed, Jerome Powell, n'a donc pas annoncé de véritable surprise, Guillaume Nodin.
En fin d'année dernière, la Fed avait indiqué que les baisses de taux pratiquées en 2024 allaient ralentir. Et c'est exactement ce qu'il se produit. La Banque centrale américaine se met un peu en position d'attente pour voir comment va évoluer la situation économique sur ses deux missions principales, la santé du marché de l'emploi et la maîtrise de l'inflation. Elle est encore un peu élevée, reconnaît Jerome Powell, qui ne sera sans doute pas contredit par les Américains qui cherchent à acheter des œufs, devenus un symbole politique pendant la dernière campagne électorale. La Fed reconnaît aussi que l'éventualité de droits de douane sur les produits produits en provenance de plusieurs pays partenaires des États-Unis pourrait avoir un effet. Elle choisit donc la prudence, malgré les pressions de Donald Trump, qui a ordonné à ses services de lutter contre l'inflation, bien que les résultats en la matière ne se décrètent pas. Le nouveau président a même demandé une baisse immédiate des taux pour favoriser l'activité et le crédit, en estimant que sa politique énergétique allait automatiquement faire baisser les prix. Il va devoir attendre, car ce n'est pas à lui de le décider, et il ne cache pas sa frustration sur son réseau social personnel. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Donald Trump, en revanche, n'a pas fait cadeau à la Fed mercredi en contestant ce gel des taux d'intérêt. Le président américain a assuré que la Fed avait échoué à régler les problèmes d'inflation du pays et que lui ferait en sorte de libérer l'emprunt des Américains. Donald Trump, toujours, qui prévoit de dédier le même lieu à des condamnés pour terrorisme et à des migrants. Le milliardaire américain a annoncé la signature d'un décret pour préparer un centre d'accueil pour 30 000 migrants à Guantanamo. Ce centre pénitentiaire avait été ouvert en 2002 par l'administration du président George Bush après les attentats du 11 septembre 2001. Les États-Unis, qui avaient aussi donné leur accord à une décision israélienne concernant l'UNRWA, deux lois doivent entrer en vigueur dans l'État hébreu ce jeudi. Elles visent à interdire les activités de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens sur le territoire israélien et à empêcher les responsables israéliens de travailler avec cette agence. Israël reproche en fait à l'UNRWA d'abriter des membres du Hamas, plus de 1200 selon un décompte fourni mercredi par le gouvernement israélien. Israël a donc demandé à l'UNRWA de quitter Jérusalem, mais l'impact de ces lois reste en fait difficile à évaluer, Guilhem Delteille.
Aux yeux d'Israël, Jérusalem-Est fait partie de son territoire et le pays a formellement demandé à l'UNRWA d'y cesser ses activités et d'évacuer les bâtiments qu'elle occupe. Mais au-delà de cette demande, l'UNRWA ne sait pas quelles seront les conséquences de l'entrée en vigueur de ces lois sur ses opérations. Marc Lassouaoui, responsable plaidoyer Europe de l'agence.
Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui peut se passer et nous sommes en contact avec différentes autorités sur le terrain en demandant un petit peu comment est-ce que ces lois pourraient être appliquées. On n'a pas de réponse.
Les contacts entre l'UNRWA et les autorités israéliennes sont désormais interdits. Or, Israël contrôle tous les accès aux territoires palestiniens occupés. Les activités de l'agence en Cisjordanie et à Gaza pourraient donc aussi être affectées, alors qu'aucun autre acteur ne peut fournir les services qu'elle offre, estime Marc Lassouaoui.
Nous fournissons des services d'éducation. Avant la guerre, nous avions presque 300 000 élèves dans nos écoles à Gaza. Le HCR n'a aucun service d'éducation. Le HCR n'est pas préparé à ça.
Ces projets de loi avaient été critiqués par les partenaires d'Israël, mais le pays pourrait trouver tout de même un allié, Donald Trump, qui avait déjà attaqué l'UNRWA lors de son premier mandat.
Guilhem Delteille, l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza, prévu par la trêve en vigueur, a été ce mercredi à l'origine de frictions entre le Hamas et Israël. Le groupe islamiste affirmait que l'État hébreu traînait pour délivrer les autorisations, démenti immédiat du gouvernement israélien qui parle de fake news. Selon les autorités de l'État hébreu, 3000 camions chargés de matériel humanitaire sont entrés à Gaza depuis dimanche dernier. L'accord prévoyait que 600 entrent dans la bande terrestre à chaque jour. Et puis, une avalanche de buts dans un format Ligue des Champions inédit. 18 rencontres étaient programmées en même temps mercredi soir, dernière journée de cette première phase de la compétition. Une soirée de football qui a permis aux 4 clubs français engagés de valider leur ticket pour la suite de l'aventure, Baptiste Leduc.
Pas grand monde ne s'y attendait, mais les Français sont reçus 4 sur 4. Après cette phase de ligue, aucun ne passe à la trappe. Le Paris Saint-Germain n'a pas tremblé sur la pelouse de Stuttgart. Une victoire 4 buts à 1 avec un triplé d'Ousmane Dembélé. Le PSG s'offre même le luxe d'être tête de série pour les barrages. Le tirage au sort vendredi lui désignera son adversaire, mais on sait déjà qu'il sera estampillé Ligue 1, Monaco ou Brest, qui ont tous les deux fini ce premier tour par une défaite cinglante 3-0, respectivement face à l'Inter Milan et le Real Madrid. Finalement, le meilleur élève tricolore, c'est Lille. Le festival offensif contre Feyenoord, 6-1, envoie les nordistes directement en huitième de finale. 4 clubs qualifiés, seule l'Angleterre fait aussi bien. Liverpool, Arsenal et Aston Villa verront les huitièmes et ce sera les barrages pour Manchester City. Provisoirement éliminés à la mi-temps de la dernière journée, les Citizens ont renversé Bruges, 3-1 et passent de justesse. Choc à venir, car dans 2 semaines, ils croiseront forcément un poids lourd, le Real Madrid ou le Bayern Munich.
Explication signée Baptiste Leduc. C'est la fin de ce journal sur RFI. Il est 4h10 à Paris, 3h10 temps universel.